parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Merci d'être à l'écoute du magazine Okapi Service. Nous allons tout à l'heure parler de l'emploi, bien, comment répondre à un avis des vacances, des postes. Vous savez, des avis de recrutement sont souvent affichés dans les valves ou publiés sur Internet. Les ONG, les sociétés recherchent des personnes qui répondent au profil des postes publiés. Alors, plusieurs candidats postulent. Cependant, certains dossiers sont immédiatement déclassés lors du dépouillement. Alors, comment répondre à une offre de poste de manière à être retenu, de manière à retenir l'attention du recruteur? Alors, pour en savoir plus, nous recevons dans ces studios M. Alain Poutou, expert en ressources humaines. M. Alain, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, dites-nous, comment répondre à un avis des vacances de poste?
Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Il y a des gens qui postulent par moment les candidatures arrivent, mais ils ne sont jamais sélectionnés. On ne les a jamais appelés pour passer les tests ou les interviews.
Oui.
Le problème est que les gens classent mal les dossiers dans leur enveloppe. Parce que vous allez, si vous suivez très bien le job description, vous essayez de les lire, vous allez vous rendre compte que les recruteurs insistent. Ils disent que le dossier incomplet ne sera pas pris en considération.
Oui.
Justement. Alors, qu'est-ce que nous avons constaté? Beaucoup de gens qui postulent, quand ils sont devant les offres d'emploi, ce qui les intéresse plus, c'est les titres du poste et la date de la clôture de l'offre. Mais les gens ne prennent pas le temps pour lire les termes de référence.
Mmh.
C'est sur base des termes de référence de l'offre d'emploi que la personne doit maintenant préparer sa candidature. Et il est aussi important de noter que pour postuler, il faut d'abord lire attentivement, comme je l'ai dit, les termes de référence. Par exemple, les titres du poste. On cherche qui et quelles sont les missions spécifiques du poste. Les exigences de ces postes, je vais vous donner un exemple. Il y a des offres où on cherche un financier, on dit capacité à travailler sous pression.
Mm-hmm.
Vous devez un peu maîtriser ces exigences du poste, chercher à connaître qu'est-ce que les postes exigent. Est-ce que vous êtes compatible, vous êtes adéquat par rapport à l'offre? Et la deuxième chose, si vous êtes devant l'offre d'emploi, il faut avoir un bloc-notes et un stylo. Il faut copier l'offre. Évitez de lire l'offre, même quand on publie les offres ici à la radio Okapi. Il y a des gens qui retiennent seulement Care International, cherchent un spécialiste en monitoring, suivi et évaluation.
Et c'est fini, ça
c'est fini, ça arrête par là. Il sait que l'adresse du Care, c'est sur Colonel Mondiba, je vais aller déposer.
Oui.
Mais les gens n'ont pas un stylo pour copier les termes de référence du poste.
Mm-hmm.
Je vais travailler sous la responsabilité de qui? Et ces postes ici exigent quoi, à part ce que moi j'ai comme formation ou compétence. Et après avoir copié l'offre ainsi que ces termes de référence, vous devez maintenant commencer à préparer ce que nous appelons les outils de communication personnelle, c'est-à-dire votre lettre de motivation qui doit reprendre la référence du poste pour lequel vous postulez. Et cette lettre de motivation doit respecter ces 5 paragraphes tels que demandés, et au quatrième paragraphe, vous devez reprendre, n'est-ce pas, les exigences du poste.
Mm-hmm.
Par exemple, on a demandé 2 à 5 ans d'expérience, la connaissance de l'anglais serait un atout. On vous demande
l'informatique.
Ouais. Par exemple, quelqu'un qui postule chez Médecins Sans Frontières ou chez Première Urgence, ils ont un logiciel comptable qu'ils utilisent. Même si vous êtes, par exemple, un diplômé d'État ou un gradué en histoire, mais vous avez fait la formation sur l'utilisation de logiciels comptables et des bureaux que les ONG utilisent dans des projets, c'est déjà un atout pour vous. Et au quatrième paragraphe, titre de votre lettre de motivation, vous êtes censé, n'est-ce pas, expliquer les atouts que vous avez par rapport à d'autres candidatures. Maintenant que vous avez fait la lettre de motivation, pour la rédiger aussi, comme je l'ai dit, il faut avoir l'offre que vous avez copiée à côté.
Oui.
Et vous êtes en train de lire les termes de référence, les profils du poste, vous êtes en train de l'adapter à la lettre de motivation. Parce que beaucoup de gens confondent. Ils rédigent les lettres de motivation, mais ils n'ont pas l'offre avec eux. J'ai même reçu plusieurs
certains
fois
éléments vont vous échapper,
les appels de certains auditeurs qui me disent « Mais j'ai une offre d'emploi, on m'a demandé la lettre de motivation, je vais écrire quoi ?» Moi, je leur pose toujours des questions. Ce qu'il faut faire, c'est de m'envoyer d'abord les postes par mail. Moi, je vais les lire et je saurai vous dire qu'est-ce qu'il faut écrire. Parce que sans la présence de l'offre,
on
ne peut pas rédiger une lettre de motivation. Et après avoir fait la lettre de motivation, maintenant vous arrivez à l'étape aussi, parce que nous sommes en train de parler sur les outils de communication marketing, communication personnelle. Alors, vous devez préparer aussi votre CV à jour. J'ai même suivi M. Jérémy ce matin en train de publier les offres d'emploi. Et quelque part, on a demandé un CV à jour. Maintenant, il y a des gens...
Il faut toujours actualiser les CV.
Parce que ce que nous avons constaté, beaucoup de gens ont un seul exemplaire du CV. Chaque fois qu'il veut postuler, il fait seulement la photocopie de son CV. Et là, déjà, vous êtes à côté. Parce que le CV que j'ai rédigé aujourd'hui par rapport au poste d'assistant des ressources humaines ne sera pas le même CV si je vais postuler en assistant au programme. Donc, quand on dit actualiser, ça signifie remettre les CV, que les CV soient compatibles aux exigences du poste pour lesquelles vous postulez. Ça signifie que si j'ai...
Peut-être qu'entre-temps, vous avez eu aussi d'autres formations.
D'autres formations, vous avez travaillé quelque part, alors il faut actualiser. Et aussi, c'est qu'il faut savoir, les mêmes postes n'exigent pas les mêmes choses. C'est-à-dire, quand je fais mon CV, par exemple, au troisième rubrique du CV, j'écris domaine des compétences. Donc, les domaines des compétences que je dois mettre au CV, au troisième rubrique, si je postule comme assistant au programme, ne seront pas les mêmes domaine de compétences si je dois postuler comme un assistant en monitoring suivi évaluation.
Alors Alain Foutou, on va poursuivre le temps d'accueillir ces deux auditeurs, Freddy Kabamba et Ethel Mbassi et Blanchard Luana à Kinshasa. Freddy, bonjour.
Oui, bonjour, assistant de la paix.
On vous écoute, Freddy.
Ça va. J'ai des questions à poser à notre invité. La première, ma grande sœur, elle est licenciée en histoire, mais souvent si on publie les offres d'emploi, elle ne part toujours les premiers pour s'inscrire, mais pour réussir, c'est très difficile. Maintenant, on se pose beaucoup de questions. Peut-être c'est l'histoire qui avait suivi ou pas, c'est quoi? Bon, deuxième question, j'ai suivi notre invité, a beaucoup expliqué que non, il faut toujours retenir, bien, il ne faut pas toujours prendre comme ça, peut-être, c'est qu'on a parlé, que c'est comme les thèmes, il faut retenir tout. Maintenant, ma grande sœur, là, si elle est en train de retenir tout, on écrit peut-être toute la famille. Mais pour réussir, c'est très difficile. C'est ce qu'on est en train de se poser beaucoup de questions. C'est quoi, c'est l'histoire qu'il avait suivi, ce n'est pas bien ou pas? C'est quoi? Si c'est la faculté, si c'est quoi, on ne sait pas.
Alors, Freddy, lorsque votre grande sœur rédige la lettre de motivation, est-ce qu'elle a toujours l'offre à côté?
Oui.
Voilà, elle a toujours l'offre à côté pendant qu'elle rédige, elle constitue son les dossiers. Bien, Alain Poutou va vous répondre tout à l'heure. Blanchard Luana, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Dodi.
On vous écoute.
Oui, ma question par rapport aux formes qu'on retrouve dans une demande d'emploi. Quelles sont les formes, donc les formules qu'on doit utiliser avant de pouvoir rédiger une demande d'emploi?
Bien, merci. Alain Poutou.
Oui, M. Blanchard de Kinshasa a posé la question sur la forme, si on veut rédiger une lettre de demande d'emploi.
La formule.
Quelle formule qu'il faut utiliser.
J'ai l'honneur.
Je veux lui dire ceci. Il y a la différence, comme je l'ai toujours souligné dans nos émissions, qu'il y a la différence entre une lettre de motivation et la lettre de demande d'emploi. Ici, nous parlons sur comment répondre à un avis de vacances, comment postuler. L'offre est là, ça vous a intéressé et que vous voulez postuler. Alors, en ce moment ici, vous pouvez plus écrire la lettre être des demandes d'emploi, parce que la demande d'emploi, quand il n'y a pas offre. Mais quand déjà l'offre est affichée, l'offre est déjà publiée, on écrit la lettre de motivation. On n'écrit pas la demande d'emploi. Il faut qu'il soit, n'est-ce pas, situé dans ces deux formes ici. Oui. Monsieur Freddy a posé la question, sa grande sœur est licenciée en histoire. À chaque fois qu'elle postule, on ne l'a jamais retenue, ça ne marche pas. Oui, mais écoutez, monsieur le journaliste, la réponse est simple.
Oui.
Vous êtes licencié en histoire. Actuellement, le marché du travail est dominé par la présence des organisations internationales. On cherche des assistants au projet, des gens qui vont travailler dans monitoring, suivi, évaluation, des assistants en communication, des assistants aux finances, des coordonnateurs logistiques. Bon, vous êtes licencié en histoire. Quel rapport entre l'histoire et les postes qu'on publie? C'est par là que j'ai dit, les gens ne lisent pas, ne lisent pas attentivement les offres d'emploi. Vous êtes licencié en histoire. On cherche un logisticien. Quel rapport
entre l'histoire
et la logistique? Allez à l'enseignement. Si vous ne voulez pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la reconfiguration, c'est-à-dire chercher à suivre des formations professionnelles qui correspondent au poste que les humanitaires publient ces jours-ci. Même quand vous suivez à la radio Capi, moi je n'ai jamais entendu qu'une ONG internationale cherche un historien. Je n'ai jamais entendu dans les profils du poste. Alors ça sert, doit faire la reconfiguration.
C'est-à-dire suivre des formations.
Des formations.
Par rapport au poste souvent publié par ces ONG.
Justement, et aussi adapter, n'est-ce pas, son CV. Essayer un peu de montrer à l'employeur que je suis licencié en histoire. Mais ce que vous demandez ici, moi je peux faire autre chose. Et aussi la culture des stages, monsieur le journaliste. Les jeunes universitaires n'aiment pas les stages. Oui, ils font les stages académiques, c'est par rapport aux cotes pour avoir des points, mais ils ne savent pas qu'aujourd'hui, ils sont victimes. Ils sont sous la pression des exigences professionnelles
du marché.
Dans toutes les offres, on demande 2 à 5 ans d'expérience.
Oui.
Alors, ils sortent de l'université, ils n'ont pas encore travaillé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ces jeunes-là, au lieu de rester à la maison, soit continuer à postuler pendant qu'on ne vous retient pas, il faut qu'ils sollicitent des stages. Ce que vous faites ici, même si on peut aller à l'université, dans la faculté des lettres, je ne pense pas qu'on apprend à quelqu'un sur des plans pratiques comment présenter une émission. On va vous donner l'historique de la communication, on tourne tout autour de la peau, mais on ne vous dit pas ce qu'il faut faire concrètement.
Oui.
Alors, ça sert, doit suivre des formations, doit faire des stages professionnels. Et puis, je crois que c'est la question qu'il avait posée. Il dit, est-ce que c'est l'histoire-là qui l'a compliquée ou comment? L'histoire ne l'a pas compliquée, mais sauf qu'il n'y a pas compatibilité, n'est-ce pas? Il n'y a pas cohérence entre l'histoire et...
Il faut une reconfiguration.
Il faut la reconfiguration. La reconfiguration.
Des questions, des préoccupations, appelez-nous au 081-890-6394. Vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net. Donc, on retient, M. Alain, que si il y a des candidatures qui sont souvent rejetées, c'est parce que on n'a pas répondu aux normes.
Oui, mais un problème mal compris, il sera mal résolu. Vous avez mal lu l'offre. Et vous allez aussi mal écrire la lettre de motivation. Maintenant, parlons de la constitution du dossier. Vous avez lu l'offre, vous avez copié l'offre, vous avez bien fait votre lettre de motivation avec les 5 paragraphes et la référence du poste tel que publié. Vous avez rédigé votre CV à jour, CV actualisé. Maintenant, vous voulez préparer les dossiers dans l'enveloppe. En première position, il faut commencer par classer votre lettre de motivation. Donc, à la première position, il y a la lettre D, motivation.
Vous devez classer. Ça qui doit être en premier.
Oui, parce que lorsque on est en train, vous êtes en train de vous vendre, c'est par cette lettre de motivation que l'employeur aura, n'est-ce pas, le temps de consulter les restes des dossiers. Si lui a demandé
dès qu'il ouvre le dossier,
il faut qu'il trouve la lettre de motivation. Mais si vous avez écrit, j'ai l'honneur de venir chercher un poste vacant, pendant que lui a publié les postes assistant en monitoring, suivi, évaluation, il va plus lire les restes. Après la lettre de motivation, ce qui suit, c'est le CV actualisé. Vous avez votre CV et ici, je vais dire aux auditeurs qu'il ne faut pas dépasser 3 pages dans les CV.
Est-ce qu'il faut écrire origine, village, collectivité?
Ça, on n'écrit plus parce que l'employeur n'a pas besoin de tout ça. L'employeur a besoin des informations qui les mettent en contact direct avec vous. Votre parent, là où vous êtes né chez Free, au contraire, ce sont des informations tribales qui vont encore vous exposer dans les discriminations.
Il ne
faut plus mettre ça, ce n'est pas important.
Ce n'est pas important.
Alors, je disais que la lettre, on commence par la lettre de motivation. En deuxième lieu, nous avons le CV actualisé. En troisième position, nous avons les attestations de services rendus. Si vous n'avez pas encore travaillé, qu'est-ce qu'il faut faire? Chaque fois que vous passez un stage quelque part, exigez au service des ressources humaines, de là où vous avez passé les stages, qu'il vous donne une attestation de stage, ce qui atteste que M. Jody a effectué son stage de telle période en telle période dans cette organisation, et dans ce stage-là, il exécutait telle tâche, telle tâche, telle tâche.
Pendant telle période.
Oui, pendant telle période. Oui. Donc, c'est ce qui vient en troisième position, soit les attestations de services rendus, ou alors vous avez les copies des lettres, disons, des attestations de... des stages. Parce que souvent, il y a des gens qui passent les stages quelque part, ils ne demandent pas les attestations. Ils partent, ils ne demandent plus. Mmh. En quatrième position, nous avons les copies des titres scolaires ou des certificats de formation suivis. Vous allez trouver actuellement, il y a des gens qui occupent des postes de management, mais ces gens-là ne sont même pas des gradués, ne sont même pas des licenciés. Ce sont des bacheliers. Il est diplômé d'État, mais il a suivi plusieurs formations et il a annexé, n'est-ce pas, ces certificats dans les dossiers pour montrer que les postes pour lesquels je postule, c'est vrai que je parle, fais des études supérieures et universitaires par rapport à ces postes, mais j'ai suivi des formations.
Bien, on va accueillir deux auditeurs. Christian Gabou nous appelle de Kpandroma, dans la province orientale, et Mista Mboula de Kananga. Christian Gabou, bonjour.
Bonjour, j'ai dit bonjour à l'invité.
Quelle est votre question?
Ma première question, c'est comment peut-on disposer les CV et quels sont les éléments qu'on doit y mettre? Et deuxième, c'est tout simplement la préoccupation, parce que quelques comportements à éviter chez les demandeurs, ils tiennent beaucoup plus compte des connaissances ou de liens familiales, même tribal, et puis la corruption a dominé aussi dans cette affaire-là. Merci beaucoup.
Merci. Mista Mboulou de Kananga, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur.
On vous écoute.
Oui, je voulais poser un peu des questions à l'invité. La première question, je voulais savoir, est-ce qu'il est possible et important de mettre aussi les sujets de votre TFC ou mémoire dans les CV? Et puis, la deuxième question, je voulais savoir si l'invité peut nous aider avec même les paragraphes dans une lettre de motivation. C'est ça ce que je veux commenter sur votre question.
Bien. Alain Poutou.
Oui, je réponds d'abord à M. Christian de Pandroma. Il a posé la question sur la composition du CV.
Oui, comment disposer les différents les éléments
Je crois qu'on a parlé de ça dans une des émissions ici. Comme je l'ai dit, que le CV détaillé doit avoir 10 rubriques. Vous commencez par la première rubrique où vous donnez les détails personnels. Au lieu d'écrire identité, on écrit les détails personnels. C'est que donc on prend plus les éléments importants. Votre nom, par exemple, les prénoms, le post-nom, la nationalité, les sexes, votre état civil.
Oui.
Si vous êtes marié, vous écrivez marié, ça ne sert plus à rien d'ajouter le nom de votre épouse ou époux. Hein, vous écrivez seulement état civil marié. Et aussi, évitez de mettre le nombre d'enfants dans les CV. Pourquoi? Parce qu'il y a certains employeurs, dès que vous avez écrit huit enfants. Bon, l'employeur regarde, il essaye un peu de calculer les allocations familiales, il imagine que si vos enfants tombent malades, madame, ça fait déjà une famille de 10 personnes. Alors, quand l'employeur essaye un peu d'évaluer le coût, ça va déjà les décourager. Il n'a même plus le temps de continuer à exploiter tous les dossiers parce que vous avez mal compris les ministères de remplir la terre. Alors, il pense que vous avez beaucoup d'enfants. Alors, ça pèse pour lui.
Il ne faut pas
mettre tout ça. C'est pas important. Ça va vous disqualifier. Oui. Alors, il a posé encore la question sur l'aspect tribal. Il a dit qu'il y a certains employeurs qui tiennent compte des relations familiales. Là, en tout cas, il a raison, mais c'est que moi, je peux lui demander, il ne faut pas qu'il se décourage. Parce qu'on peut même voir la détermination. Nous avons parlé la fois passée sur les 9 lois pour se vendre. Nous avons parlé sur la loi de la détermination en béton. Ça signifie quoi? Je postule ici. Si là-bas, ils ont leur recrutement est basé par des recommandations, l'aspect tribal, bon, on ne m'a pas retenu, je vais postuler ailleurs. Et aussi, monsieur le journaliste, c'est qu'il faut que les auditeurs puissent retenir. Quand on postule aujourd'hui, il faut pas croiser les bras. Vous avez postulé, par exemple, chez Care International. Vous venez de postuler. Demain, lisez encore d'autres offres d'emploi.
Allez encore postuler.
Postuler. Parce que, et qu'est-ce qu'ils font? Ils postulent, ils croisent les bras, ils attendent qu'on les appelle. Et si on ne vous a pas appelé? Alors, pour les employeurs là qui recrutent par rapport aux recommandations, les tribalismes, en tout cas, je vais leur demander de changer. Dans le procédure de recrutement, on dit que le recrutement doit être objectif, hein, pas subjectif. Donc, si vous voulez trouver des bons agents, vous voulez que votre entreprise puisse évoluer, évitez de recruter par tribalisme. Si quelqu'un
le
n'a
tribalisme
pas
tue,
c'est pas bon.
Ça
si quelqu'un n'a pas les profils, il ne faut pas les recruter. C'est
bien. Alain Poutou, on va d'abord accueillir des auditeurs. Léonard Moutange de Lubumbashi et Alexis Mbouy de Kananga. Léonard, bonjour.
Bonjour, monsieur le présentateur de l'émission.
Quelle est votre question, Léonard?
Oui, je suis très content d'avoir suivi monsieur Alain Poutou sur la voie des ondes.
Oui.
Ce qu'il a toujours fait, là, c'est une formation qu'il nous a toujours donnée à distance. Ma première préoccupation était de lui demander quelles possibilités il y a, chaque fois tant qu'il nous présente l'émission, qu'il essaye un peu de nous donner les détails sur la lettre de demande d'emploi et sur la lettre de demande la lettre de motivation. Parce que d'après le commun des mortels, nous savons que la lettre de demande d'emploi commence par « j'ai l'honneur, j'ai l'honneur », là c'est partout. Bon, maintenant, l'introduction même, le développement ainsi que la conclusion de la lettre de motivation, là nous ne savons pas. Alors il a toujours distingué qu'il y a différence entre la lettre de motivation et la lettre de demande d'emploi. Si possibilité il y a qui peut nous donner quand même une idée sur les détails, sur les modèles, ça peut nous réjouir.
Oui, peut-être qu'à faute de temps...
Alors, la deuxième préoccupation, c'est de savoir si un diplômé d'État peut se permettre à écrire une lettre sur l'offre d'un comptable, par exemple. Un diplômé qui a fait les humanités commerciales. Quand on cherche un comptable quelque part, est-ce qu'il peut s'hasarder aussi à se mesurer à une telle offre? C'est ça ma préoccupation.
Bien, merci Léonard. Alexis Mbouy de Kananga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
On vous écoute.
Oui, j'ai une petite question à poser à l'invité.
Oui.
Bon, quels sont les éléments qui constituent une lettre de motivation? C'est ça une lettre.
Les éléments qui constituent une lettre de motivation.
Oui.
Bien. Et Pascal Mbumba de Kolwezi, bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à l'invité aussi. Et bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi.
On vous écoute, Pascal.
Ok, ma question est la suivante. Je voulais savoir un peu la différence entre la lettre de motivation et la demande d'emploi. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient à peine de terminer, par exemple, qui n'a pas encore une expérience du travail. Maintenant, je veux savoir comment sera constituée sa lettre de motivation. Voilà ma question, merci.
Bien, Alain Poutou.
Oui, je réponds à monsieur de Kananga, monsieur Mista, qui a dit est-ce qu'on peut mettre le sujet de son TFC dans les CV. Il n'est pas important. Il n'est pas important. Peut-être si vous êtes en train de postuler les services d'études et planification dans un ministère, là ça va, vous pouvez mettre votre sujet parce qu'on veut voir un peu ce que vous avez fait comme études, les recherches que vous avez menées, si ça peut leur profiter. Ou quelqu'un qui postule dans une banque, il a fait l'économie monétaire et qu'il a un sujet qui peut aider, n'est-ce pas, la banque à évoluer. Mais si c'est pas dans le secteur public, ni dans des banques, ça ne sert à rien de mettre votre sujet de mémoire ou de TFC. Ce n'est pas important, ça ne va même pas influencer l'employeur. Monsieur Léonard de Lubumbashi a posé la question la lettre de demande d'emploi et c'est de la lettre de motivation. Si dans des émissions je peux expliquer, heureusement que vous l'avez répondu. La presse a ses normes. Nous courons derrière le temps. Nous courons derrière les temps.
Peut-être vous pouvez lui donner votre numéro, il va vous appeler
d'accord,
après l'émission.
Et puis les auditeurs aussi doivent avoir des adresses mail. Certaines choses, on peut les balancer par mail, mais vous allez voir la culture des gens. Les gens vivent, ils n'ont pas d'adresse mail, ni quoi. Il va vous appeler au téléphone, il dit, mais j'ai l'offre d'emploi avec moi, je vais postuler. Bon, s'il a l'adresse mail, on peut lui balancer, par exemple, les modèles du CV. On lui dit, bon, regardez un peu les canevas du CV, les canevas de la lettre de motivation. Donc, ce qu'on doit faire, peut-être, ils vont prendre les numéros et ils me balancent.
Vous pouvez lui donner directement
mails.
Son numéro,
okay.
Votre numéro.
Oui, c'est le 09 98 17 21 43 09 98 17 21 43. Ils peuvent même envoyer l'SMS par Vodacom 082 53 9 0 0 16 0 82 53 9 0 0 16. Comme ça, on va aller balancer peut-être par mail les modèles. Alors rapidement,
une autre question, il dit, est-ce qu'un diplômé d'État,
peut postuler... qui a fait la section commerciale et administrative a lui l'offre d'emploi, on cherche
un
comptable. Si on cherche un chef comptable, il ne faut pas qu'il postule. Mais si on cherche un assistant comptable, on cherche un caissier, il doit postuler. Mais il faut signaler qu'il ne peut pas postuler directement avec son diplôme d'État, parce que ça pèse pas. Je vous ai dit que la formation universitaire, la formation scolaire ne correspond pas aux tâches, n'est-ce pas, qu'on demande dans les offres d'emploi. Alors, il doit d'abord suivre des formations, il doit aussi faire l'informatique. Diplômé d'État, il fait l'informatique et un peu d'anglais. Ça va lui donner, n'est-ce pas, voilà, justement, pour renforcer son CV. Sinon, il va avoir un CV d'une page. Voilà. On voit déjà que vous êtes diplômé et le CV une seule page, pendant qu'on doit mettre les deux à trois pages.
Alexis qui demande les éléments d'une lettre de motivation, la différence entre lettre de motivation et demande. Bon, on n'a plus assez de temps.
On n'a plus assez de temps.
Rappelez le numéro, comme ça, ils vont vous appeler juste après l'émission.
Oui, 082-53-9-0-0-16. 082-53-9-0-0-16 ou le RTL 09-98-17-21-43. 09-98-17-21-43.
Monsieur Alain Poutou, on s'arrête là pour aujourd'hui. Nous rappelons que vous êtes expert en ressources humaines. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Merci.